inspirées par le Seigneur, qui viennent de sa parole. J'invite juste à prier avant de se tourner vers le psaume 133 ensemble. Seigneur notre Dieu, nous te remercions parce que tu es un Dieu qui n'est pas resté silencieux, lointain dans son ciel de gloire, mais un Dieu qui est venu nous parler, qui s'est révélé en Jésus-Christ et qui nous a laissé aussi sa parole à travers les Écritures que tu as inspirées par ton Saint-Esprit. Et Seigneur, nous te prions que par ton Saint-Esprit, tu disposes maintenant nos cœurs, notre intelligence à se mettre à l'écoute de ce que tu veux nous dire ce matin. Et que, Seigneur, tu nous aides aussi à mettre en œuvre et mettre en pratique cette parole qui vient de toi, qui est pour notre vie et pour ta gloire. Au nom de Jésus, amen. Voilà, donc on va relire ensemble le psaume 133 que Matthieu a lu tout à l'heure. Je vous présente dans une traduction un petit peu différente. Peut-être qu'on peut le lire ensemble si vous êtes d'accord. Donc c'est le cantique des montées de David. C'est d'accord qu'on lise ensemble, ça s'affiche à l'écran. Ah, que c'est bon, que c'est agréable lorsque des frères demeurent vraiment ensemble. C'est comme la bonne huile sur la tête d'Aaron qui descend sur la barbe d'Aaron qui descend jusqu'au bord de son vêtement. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Oui, c'est là que le Seigneur ordonne la bénédiction, la vie pour toujours. Un psaume qu'on connaît bien, hein. Il y a même un chant qu'on chante, même en version parfois en hébreu. À qui il est doux pour des frères, vous connaissez? Les plus anciens connaissent. Hein. Voilà. Et c'est un psaume qui nous parle du bonheur d'être ensemble en tant que sœurs et frères dans la foi. Et la question que j'aimerais nous poser ce matin, c'est est-ce que nous arrivons encore à expérimenter ce bonheur de se réunir avec des frères et sœurs en Christ, de passer du temps ensemble? On a proclamé, on a dit ce psaume ensemble, ah que c'est bon, que c'est agréable quand des frères demeurent vraiment ensemble. Mais est-ce qu'on arrive vraiment à le dire de tout notre cœur? On ne l'a pas juste lu là parce qu'il fallait le lire. Est-ce qu'on arrive à se dire, ah j'ai hâte de retrouver mes frères et sœurs en Christ parce que ça va être un bon moment, ça va être agréable, ça va être super, comme le dit ce psaume? Ou bien est-ce qu'on a perdu parfois le goût, la joie de se retrouver? Et peut-être que pour toi qui es là ce matin, ou toi qui regardes cette prédication en ligne ou sur Zoom, c'est devenu difficile de se motiver pour aller passer du temps avec nos frères et sœurs en Christ. Peut-être qu'il y a eu des blessures qui ont causé cela dans les relations au sein de l'Église, peut-être que ce soit ici ou ailleurs. Hein. Et peut-être que tu n'arrives simplement pas ou plus à trouver quelque chose de bon et d'agréable dans le fait de se réunir ensemble. Et ce psaume qu'on a lu nous rappelle qu'il y a un enjeu important à passer du temps ensemble, entre frères et sœurs, dans la foi. Parce que le texte dit que c'est là, lorsque nous sommes ensemble, que le Seigneur ordonne la bénédiction, la vie pour toujours. Et si je refuse la communion fraternelle, ben je passe à côté d'une bénédiction de la vie que le Seigneur veut m'offrir à travers cela. Alors tu dis, peut-être que certains disent, bon, c'est un peu exagéré, ça... Et c'est ce que dit le psaume. Et c'est une vérité, non seulement qu'on trouve dans ce psaume, mais qui est développée dans différents textes de la Bible. Et je nous invite ce matin à essayer de redécouvrir cette vérité ensemble. Premier point. Qu'est-ce que ça veut dire exactement lorsque le psaume dit « Il est bon qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble » ou vraiment ensemble? Est-ce que c'est l'idée de rappeler l'importance des réunions de famille entre frères et sœurs, avec les parents, les grands-parents? Peut-être comme vous avez eu à Noël, voilà, on a eu des temps en famille, c'était bien, on était autour d'un bon repas. Bien entendu, je pense que vous en doutez, le terme qu'on traduit ici par « frère » est utilisé non pas en référence aux relations au sein de la famille dans laquelle j'ai grandi, mes frères et sœurs de sang, mais le psaume ici évoque la fraternité spirituelle celle des membres du peuple de Dieu. Le psaume est précédé de la mention qui dit que c'est un cantique des montées. Cantique des montées de David. C'est comme ça que se présente le psaume. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est un cantique des montées? C'est des choses qu'on voit, je ne sais pas si vous avez déjà, quand vous lisez le livre des psaumes ou dans certains titres des psaumes. Que c'est un psaume qu'on doit chanter quand on gravit une montagne ou quand on monte les escaliers dans le métro. Bien sûr, dans le contexte de l'Israël ancien, le psaume, les cantiques des montées, c'était des psaumes qui étaient chantés en particulier lorsque les Israélites montaient à Jérusalem pour aller adorer Dieu dans le temple qui se trouvait à Jérusalem. Jérusalem est en effet située en altitude. Si un jour vous êtes allé en Israël, vous avez eu cette joie de visiter Jérusalem, voilà, c'est en altitude, sur les montagnes de Sion, comme dit le psaume. Le temple de l'Éternel était lui-même construit en haut d'un mont de la ville de Jérusalem. Et donc, vous voyez, on montait littéralement lorsqu'on allait au temple. Hein, c'est pour ça qu'on parle de cantique des montées. Et c'est intéressant pour ce psaume parce que ça nous rappelle que ce qui est évoqué ici, c'est non pas un rassemblement familial comme on peut avoir à Noël, mais un rassemblement en l'honneur du Dieu vivant. Lorsqu'on monte ensemble, qu'on se rassemble pour aller célébrer ensemble le Dieu vivant. Ça rappelle l'importance dans le plan de Dieu que son peuple se rassemble pour l'adorer. Et vous savez, et ça c'est quelque chose qu'on trouve dans l'Ancien Testament, il y avait cette idée qu'il n'y avait qu'un seul lieu de culte qui devait être à Jérusalem et que tous les Israélites devaient régulièrement, dans l'idéal au moins 3 fois par an pour les fêtes de pèlerinage, venir à Jérusalem. Et ça voulait dire, pour quand vous n'habitiez pas juste à côté de Jérusalem, ça voulait dire un sacré voyage parfois. Hein. À l'époque, il n'y avait pas les avions, les trains, etc. Ça voulait dire plusieurs jours de marche, voire plusieurs semaines, selon l'endroit où vous habitiez. Il fallait donc être motivé pour monter à Jérusalem quand vous habitiez aussi loin et se rassembler avec ses frères et sœurs juifs au temple de Jérusalem. Ça nous fait peut-être un peu réfléchir quand nous, on a un peu de mal, vous savez, quand on doit faire 15 minutes ou une demi-heure de transport pour venir se rassembler avec des frères et sœurs dans la foi. Bon, je ne vous lance pas la première pierre. Hein. Moi, pour venir à l'église, j'ai juste à descendre 2 étages et à faire 20 mètres. Et ça m'arrive pourtant aussi de traîner les pieds. Je dois l'avouer, ça m'est déjà arrivé. Mais est-ce qu'on réalise quand même aussi cette chance qu'on n'a plus besoin d'aller jusqu'à Jérusalem pour se rassembler avec nos frères et sœurs dans la foi? Parce qu'on vit à une époque de l'histoire de Dieu qui est après la venue de Jésus-Christ. Et depuis la venue de Jésus-Christ, Jésus lui-même a accompli le sacrifice parfait. Il est le sacrifice parfait, il est notre Pâques, dit le Nouveau Testament. Et nous n'avons plus besoin d'aller au temple pour faire des sacrifices à Jérusalem. Et non seulement nous n'avons plus besoin d'aller au temple pour faire des sacrifices, mais la Bible nous dit aussi que désormais le temple de Dieu n'est plus un temple fait de pierres taillées, de bois, d'argent ou d'or, mais un temple fait de pierres vivantes. Et les pierres vivantes, c'est chacun d'entre nous qui avons mis notre foi en Jésus-Christ. Nous formons ensemble, avec tous les croyants à travers le monde, de tous les temps, nous formons ensemble le temple du Seigneur, c'est-à-dire le lieu où réside la présence de Dieu. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et donc, ça veut dire qu'on peut désormais se retrouver ensemble pour adorer Dieu n'importe où, hein, que ce soit dans un salon d'une maison, que ce soit dans un petit local, ou que ce soit dans une grande, magnifique cathédrale. Peu importe le lieu, ce qui importe, c'est de se rassembler autour de celui qui fait de nous un seul peuple, qui fait de nous son temple. La pierre de fondation du temple, c'est Jésus-Christ, et c'est autour de lui que nous nous rassemblons. Mais ce n'est pas parce que, justement, on pourrait dire, voilà, depuis la venue de Jésus, il n'y a plus besoin de temple à un endroit donné, qu'on n'aurait pas non plus besoin de se réunir entre frères et sœurs dans la foi. Quand vous lisez le Nouveau Testament, après la venue de Jésus, on ne voit pas que les croyants en Jésus-Christ se disent « Bon, c'est bon, on peut rester chacun chez soi et de toute façon, on a le Seigneur avec nous. » C'est l'inverse même. Le livre des Actes, qui décrit la vie des tout premiers chrétiens, montre qu'ils ont eu à cœur de passer du temps ensemble. En Actes au chapitre 2, juste après la Pentecôte, il nous est dit que les chrétiens, la première église à Jérusalem, se retrouvaient tous les jours dans le temple et dans les maisons. Ils partageaient le repas du Seigneur, qu'on va faire tout à l'heure. Ils mangeaient ensemble aussi, ils passaient du temps ensemble dans la louange, dans la prière, à l'écoute de l'enseignement de la parole transmise par les apôtres. Et ils vendaient même leurs biens. Il y avait un partage qui allait parfois jusqu'à vendre les biens pour mettre en commun et avoir une sorte de budget commun. Et le texte ajoute qu'ils faisaient tout cela avec une grande joie, que le peuple autour était favorable, leur était favorable, et que le Seigneur ajoutait chaque jour à leur communauté ceux qu'il sauvait. Et je crois que les premiers chrétiens expérimentaient pleinement ce que dit le psaume 133. Ah, qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères de demeurer vraiment ensemble. Je ne sais pas si vous avez fait attention aux mots qui sont employés dans cette première phrase du psaume. L'idée, ce n'est pas juste de retrouver d'autres croyants pour une sorte de spectacle auquel on assisterait, et puis après tout le monde rentre chez soi. C'est un peu comme quand on va à un concert, on va assister à un match de foot au stade. L'Église, c'est plus que ça. Le psaume parle de frères qui demeurent vraiment ensemble. Déjà le mot frère. Le mot frère, ça implique une relation forte, hein, profonde, comme celle qu'on peut avoir avec des frères et sœurs avec qui on a grandi, on a vécu dans une famille. Et ce sont des frères qui, dit le texte, demeurent ensemble. Le verbe « demeurer » ici implique que ce n'est pas juste se retrouver, se côtoyer de loin, on va dire. Il y a l'idée d'être présent ensemble au même endroit, de passer du temps ensemble, de s'asseoir à une même table, de partager un même toit. Et puis, il y a une certaine insistance. Le texte dit littéralement qu'il s'agit de demeurer vraiment ensemble. Le terme hébreu qu'on traduit par ensemble, ça implique vraiment l'idée d'unité, de communauté, d'être un seul. Et en hébreu, il y a un adverbe qui précède, c'est pour ça que j'ai traduit vraiment ensemble, qui insiste sur ce côté que ce n'est pas juste ensemble, c'est vraiment ensemble. Quelque chose de fort, vous voyez. La volonté du Seigneur pour nous est que nous puissions avoir une relation qui est celle de frères et de sœurs qui demeurent vraiment ensemble. Des relations profondes, des relations vraies, des relations qui nous engagent, qui nous impliquent, des relations auxquelles nous consacrons du temps. Depuis la période du Covid, nos églises ont beaucoup développé la possibilité de suivre les réunions d'église en distanciel. Nous-mêmes, on diffuse, il y en a qui suivent actuellement sur Zoom, d'autres utilisent YouTube ou d'autres plateformes. Et c'est vraiment des outils, on peut être reconnaissant pour ça, qui sont précieux, qui sont formidables pour maintenir un lien lorsqu'on est empêché de pouvoir se déplacer, que ce soit pour des restrictions comme c'était à l'époque, mais aussi peut-être pour la maladie ou parce que, avec l'âge ou avec un emploi du temps qui nous empêche de faire le déplacement, mais par contre on arrive à suivre à distance. Et on est reconnaissant pour cela. Mais il faut se rappeler quand même que le psaume 133 dit que Dieu souhaite nous bénir lorsque nous demeurons vraiment ensemble. Et c'est compliqué de demeurer vraiment ensemble via Zoom ou en distance. Alors bien entendu, on ne peut pas non plus entretenir des relations, c'est quelque chose de fort, demeurer vraiment ensemble, des frères et des sœurs. Ce type de relation, on ne peut pas l'entretenir avec des millions ou des milliards de chrétiens à travers le monde aujourd'hui. Et c'est pour ça que les chrétiens à travers le monde se retrouvent dans des églises locales qui vont être situées pas trop loin de là où ils vivent. L'église locale, c'est la manifestation concrète de l'église universelle de Jésus-Christ dans un lieu donné. Et c'est là, dans ce contexte, que depuis l'origine de l'Église, nous pouvons vivre réellement, concrètement, cette communion fraternelle que le Seigneur a vécue pour nous. Et c'est pour ça que c'est important de pouvoir se rassembler régulièrement en Église pour adorer Dieu ensemble, pour se mettre à l'écoute de sa parole ensemble, pour partager le repas du Seigneur, la Sainte Cène. Mais ça va même plus loin, je crois, si on prend vraiment au mot ce que dit ce texte. Que la simple, que c'est déjà bien d'être présent au culte chaque dimanche, mais ça va plus loin, je crois, ce qui nous est encouragé là, c'est de développer des relations fraternelles profondes. Et même dans notre église, qui n'est pas une église immense, ce n'est pas concrètement possible de développer de telles relations profondes avec la, peut-être on a la petite centaine de personnes qui fréquentent plus ou moins régulièrement notre église. Si on veut vivre une communion fraternelle plus profonde, ça passe forcément par l'idée de développer des relations privilégiées avec quelques frères et sœurs. Des personnes avec qui on va pouvoir partager à cœur ouvert, à qui on va pouvoir prier de manière régulière, s'encourager dans la foi. Et c'est pour ça qu'on souhaite aussi dans notre église donner une belle place à des temps peut-être un peu plus informels. On a l'habitude d'avoir des repas tous les 15 jours, après les cultes, tous les deux dimanches. Ce sera dimanche prochain. Les temps aussi d'échange, on essaye d'avoir un petit café avant le culte et puis avoir un petit temps encouragé pour échanger après les cultes. D'autres activités comme les groupes des femmes de lumière ou bien le groupe de jeunes, c'est des temps et des occasions où on peut avoir la possibilité de faire mieux connaissance, de créer des liens et éventuellement ensuite de développer de véritables relations fraternelles peut-être plus profonde. Rappelons-nous, ça c'est la volonté de Dieu pour nous, telle qu'elle est exprimée ici. Hein, à qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères de demeurer vraiment ensemble. Voilà ce que Dieu veut pour nous. Et si volontairement on décide de renoncer à demeurer ensemble avec des frères et sœurs en Christ, quelque part, c'est refuser quelque chose de bon que le Seigneur nous offre. C'est se mettre à l'écart des bénédictions qui sont liées. Et c'est ça le deuxième point de mon message. Est-ce qu'on réalise les bénédictions? Est-ce qu'on arrive encore à réaliser les bénédictions qui sont liées au fait de se rassembler ensemble comme des frères et sœurs en Christ? Comme dit le texte, c'est là qu'est la bénédiction, la vie pour toujours. Et le verset 2, puis aussi le début du verset 3, va utiliser deux images pour nous faire comprendre cela. Deux images parallèles. Au verset 2, il est dit, c'est comme la bonne huile sur la tête d'Aaron qui descend sur la barbe d'Aaron qui descend jusqu'au bord de son vêtement. Pour comprendre cette image, il faut avoir une petite connaissance de l'Ancien Testament. Aaron, c'était le premier des grands prêtres dans le temple du Seigneur. Et lorsque Aaron et les autres grands prêtres étaient institués dans leurs fonctions, on leur versait de l'huile sur la tête. L'huile parfumée, pas juste un tout petit peu comme nous quand on fait des fois l'onction d'huile, c'était une bonne dose, et ce qui fait que ça coulait hein, sur la barbe et jusqu'au bord du vêtement. Et c'est ce qu'on appelle l'onction d'huile. Ce rite, c'était une manière de symboliser le fait qu'ils étaient maintenant consacrés au Seigneur en tant que grand prêtre. C'est une marque, l'onction d'huile du grand prêtre, c'est une marque de choix de Dieu, de la mise à part pour Dieu. C'est aussi un symbole de la présence de l'Esprit de Dieu sur le grand prêtre. C'est la première image qui est utilisée. La deuxième, au verset 3, utilise une autre image, aussi un liquide qui est présenté comme descendant. Et cette image, c'est celle de la rosée. La rosée qui est présentée comme descendant de l'Hermon et qui descend sur les montagnes de Sion. L'Hermon, c'est une des plus grandes montagnes au nord d'Israël. Et Sion, c'est Jérusalem. Les montagnes de Sion, c'est celle de Jérusalem. Vous savez, dans cette partie du monde, entre avril et octobre, c'est particulièrement sec, en tout cas pour une grosse partie du territoire d'Israël. C'est une région qui est très sèche pendant le printemps et l'été. Et la rosée du matin, qui apporte cette humidité, c'est quelque chose de bienfaisant. C'est quelque chose, quand vous êtes dans un climat sec comme ça, de bienfaisant, en particulier pour les champs, et qui permet aussi de maintenir une forme d'agriculture. Et dans l'Ancien Testament, le don de la rosée est mentionné plusieurs fois comme quelque chose qui vient du ciel, c'est-à-dire qui est une bénédiction, une manifestation de la bienveillance du Dieu créateur. C'est une bénédiction que le créateur donne à l'humanité. Et vous voyez, ces deux images, ce n'est pas simplement une manière de souligner que c'est quelque chose d'agréable d'être ensemble, la communion fraternelle. Ça souligne qu'il s'agit d'un don du Seigneur. C'est un cadeau du Seigneur. Il y a une bénédiction qui descend directement du ciel qui est liée à cela. C'est là que se manifeste la présence de Dieu, aussi quelque chose comme cette image de l'huile, de l'Esprit de Dieu qui est là d'une manière particulière. Dans les évangiles, Jésus a dit « Lorsque deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Jésus, il est avec nous tous les jours, même quand on n'est pas deux ou trois, mais il y a quelque chose de particulier quand on se retrouve. En acte 2 ou en acte 4, c'est quand les disciples sont réunis ensemble dans le même Dieu pour prier, pour louer Dieu, qu'on voit qu'il y a le Saint-Esprit qui va se manifester d'une manière toute particulière. Et cela montre qu'il y a une façon que le Seigneur prend plaisir à se manifester lorsque nous sommes réunis en son nom, centrés sur lui, sur Jésus-Christ. Oui, le Seigneur, il est présent avec nous à chaque instant par son esprit qui demeure en nous, même quand on n'est pas ensemble, quand on est seul, là où que nous soyons, il est là. Et on sait aussi, la Bible nous dit, Jésus a dit que c'est important de prendre du temps seul à seul avec notre Père Céleste dans la prière, dans l'étude de sa parole. Mais notre Seigneur se plaît aussi à manifester sa présence d'une manière encore plus spéciale, probablement différente, lorsque des frères et sœurs demeurent ensemble pour tourner leur regard ensemble vers lui. Et d'ailleurs, donc, après ces deux images de l'huile, de la rosée, le psaume va rendre cela encore plus explicite. C'est la dernière phrase du psaume en disant « C'est là que le Seigneur ordonne la bénédiction, la vie pour toujours. » C'est là, lorsque les frères et sœurs demeurent vraiment ensemble, que le Seigneur choisit de bénir d'une manière particulière. C'est là qu'il dispense la vie pour toujours. C'est quand même fort comme expression. Hein. La vie éternelle. Autrement dit, la communion fraternelle véritable, ce n'est pas seulement quelque chose d'agréable. C'est une dimension spirituelle forte. Elle est source de bénédiction. Elle est même en lien avec la vie éternelle. Ces derniers mois, on a commencé une étude du livre de l'Apocalypse lors de nos réunions du jeudi soir. Et le livre de l'Apocalypse nous révèle le plan de Dieu pour notre monde. Et une des choses qu'on voit répéter, on a rappelé à travers ce chant tout à l'heure aussi, c'est cette image d'un immense peuple de croyants de toutes les nations. C'est assez extraordinaire, qui sont unis avec les anges et toute la création et qui, dans le ciel, louent le seul vrai Dieu, le Sauveur Jésus-Christ. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve plusieurs fois dans l'Apocalypse. Et l'Apocalypse, à travers cette image, nous montre que on n'est pas appelé à vivre l'éternité, la vie éternelle, tout seul, sur une île déserte, tranquille, juste avec Jésus. Hein. Non, c'est avec le peuple des rachetés, un peuple de toutes les nations, qu'on va vivre l'éternité. Cette vie de bénédiction dans la présence du Dieu vivant, dans la nouvelle création. Et notre Dieu ne souhaite pas que nous attendions d'être au ciel pour pouvoir expérimenter cela. Sa parole nous encourage de l'expérimenter déjà comme un avant-goût ici-bas, à travers notamment la vie de l'Église. Ces derniers jours, on a vécu 3 jours de jeûne et prière ensemble, de jeudi à samedi. On avait plusieurs rencontres chaque jour pour ceux qui le pouvaient. Je ne sais pas vous, je suis pour ceux qui étaient là, mais moi, personnellement, je me suis régalé dans ces temps, dans la présence de Dieu. Ouais, je ne suis pas tout seul, c'est bien. On a vécu des temps forts hein, dans sa présence alors qu'on était rassemblés ensemble pour le louer, pour se mettre à son écoute, pour prier les uns pour les autres. Hier, on a eu la dernière séance qui a duré 3 heures, hein, 10h à 13h. À chaque fois, quand on programme, on se dit ouais, c'est quand même 3 heures. Mais honnêtement, on ne voit pas le temps passer. Hein. D'accord, Dominique. Hein. On ne voit pas vu le passer. Il y a quelque chose de fort et on a prié aussi les uns pour les autres. Hier, on a pris du temps et il y avait quelque chose de fort dans ce temps-là, en petit groupe, de prière les uns pour les autres. Parce qu'on croit, et je crois qu'on l'a, On n'a pas juste cru. On a vu hier et ces derniers jours qu'il y a une présence particulière, pardon, du Seigneur lorsque deux ou trois sont réunis en son nom. Et oui, c'est bon, c'est agréable. Peut-être que pour toi, tu entends ça et tu dis oui, c'est ce que dit la Bible, mais c'est peut-être difficile de le dire en ce moment. Ah, qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est mon troisième point, intitulé « Quand cela n'est plus bon et agréable ». On va être honnête entre nous, hein. Je suis sûr qu'on a tous eu des dimanches où on a eu du mal à se dire « Chouette, aujourd'hui je vais aller retrouver mes frères et sœurs de Christ. » Frères et sœurs en Christ à l'église, hein. Peut-être parce que ce jour-là, on était fatigué, on a eu du mal à se lever, comme ça peut arriver chaque jour. Mais peut-être aussi pour des raisons plus profondes. Peut-être parce qu'il y a des temps où on a été blessé par un frère, par une sœur en Christ, parce que nous sommes déçus, des fois même de l'Église, tout simplement. Et quand des relations nous ont fait du mal, c'est un réflexe qui est presque tout à fait naturel, hein, de vouloir prendre de la distance. On entre en mode survie, hein. On se protège, on fuit. Parfois, les blessures sont tellement profondes qu'on développe même une carapace parce que parfois, un frère ou une sœur ou plusieurs, parfois, nous ont fait particulièrement du mal. On se dit que non, c'est plus possible, l'Église. C'est impossible d'avoir de bonnes relations agréables avec des frères et sœurs en Christ. Parfois, je parle ça de manière générale. Mais mon frère, ma sœur, si jamais c'est ce que tu penses dans ton cœur ce matin, laisse-moi te dire que c'est un mensonge de l'ennemi. Puisque le Dieu de vérité, le Père qui nous aime, le dit clairement dans sa parole, il veut nous bénir à travers des relations véritables, fraternelles. Notre Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il dit dans ce texte que nous avons lu et dans d'autres passages de sa parole, c'est la vérité. Alors, bien sûr, notre Dieu ne nous promet pas une église bisounours, hein, ou des relations où tout est beau, hein. Nous savons, et la Bible est très claire là-dessus aussi, que tant que nous sommes sur cette terre, nous restons tous en lutte avec le péché. Et ça affecte nos relations, malheureusement. Vous savez, quand Jésus a dit « Lorsque deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux », c'est une parole qui se trouve en Matthieu chapitre 18. Vous savez quel est le thème de ce chapitre ? C'est les relations entre les frères et sœurs chrétiens, et plus particulièrement la question du péché qui affecte nos relations. La question du péché, la question du pardon dans les relations de la vie de l'Église. Dans les versets qui précèdent, Jésus explique notamment comment régler des conflits entre frères et sœurs en Christ. Comment amener ceux qui ont péché à la repentance. Et juste après notre verset, ce verset où il dit quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux, Jésus enseigne sur l'importance de pardonner. Avec cette question, combien de fois devrais-je pardonner à mon frère ? Vous voyez, quand Jésus dit « Si deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux », il n'est pas en train d'évoquer l'Église parfaite, hein, où tout va bien, où les relations sont parfaitement tout le temps harmonieuses, le groupe de louanges ne fait jamais aucune fausse note, le prédicateur est passionnant du début jusqu'à la fin. Les lumières de la sono et la lumière et la sono vont vous transporter, vous faire vibrer dans la présence de Dieu. Non. La promesse de Jésus ne concerne pas l'Église instagrammable, celle qui serait parfaite quand vous faire croire sur Instagram. Parce qu'une telle Église, ça n'existe pas. Tant que Jésus ne nous a pas fait entrer dans la réalité parfaite de la nouvelle création, tant qu'on est encore en lutte avec le péché dans ce monde, Jésus nous parle ici d'une Église qui est bien réelle. Est composé d'hommes et de femmes bien réels, des hommes et de femmes qui sont tous en lutte avec le péché. Des frères et des sœurs qui se connaissent des fois tellement bien, qui savent où sont les points sensibles de l'autre, des frères et des sœurs qui se disputent parfois, qui parfois font du mal aux autres, mais qui sont appelés à l'exemple du Christ à pardonner, et qui sont appelés en rappelant du sérieux, du péché dans le plan de Dieu, que c'est quelque chose de grave, de demander pardon, sont appelés à la réconciliation. Ce sont ces deux ou trois frères et sœurs-là dont parle Jésus. Et lorsque ces deux ou trois-là, ils arrivent à se mettre d'accord pour louer Dieu ensemble, pour se réunir autour du Christ, alors Jésus dit qu'il est présent. Lorsqu'ils reconnaissent que c'est au nom de Jésus, par lui seul, qu'ils sont réunis, alors Jésus est au milieu d'eux. Ce matin, tout comme je crois ces derniers jours, Mathieu l'a dit tout à l'heure en introduction, le psaume 133, il a été lu jeudi soir par Adnan. Et voilà, je crois que le Seigneur veut nous interpeller sur la question de l'unité, mais concrète, c'est-à-dire la profondeur de nos relations, sur l'unité qu'il veut que nous expérimentions. Est-ce que tu arrives encore à dire « Ah, qu'il est bon, qu'il est agréable de demeurer avec mes frères et sœurs ?» Et si ce n'est pas le cas, j'aimerais t'inviter ce matin à laisser le Seigneur guérir ton cœur. Peut-être qu'il y a des blessures, des choses qui, par le passé, sont liées à tes relations dans l'Église, ou l'Église en général, ici ou ailleurs. Le Seigneur veut panser tes plaies, il veut t'aider à reprendre confiance en sa parole. Il veut restaurer ce qui a été brisé en toi. Juste après, on va reprendre un chant, un vieux chant qui nous parle de « Nous sommes un » dans un lien d'amour. Il rappelle l'unité que le Seigneur veut pour nous. On va aussi prendre ensuite la Sainte Cène. La Sainte Cène, c'est vraiment un temps de communion fraternelle, où on est réunis ensemble. On ne prend pas ça juste chacun dans son coin, mais c'est ensemble qu'on se tourne vers Jésus-Christ, qu'à travers le pain, nous rappelons que c'est un seul pain qui nous nourrit, c'est le Christ lui-même. Que nous prenons la coupe, on rappelle que c'est le même sang du Christ qui a coulé pour nous tous. Mais avant ça, j'aimerais qu'on prenne un petit temps pour prier. Pour celles et ceux, peut-être qui parmi nous, si, ceux qui suivent peut-être en ligne, ou ceux qui ne sont pas là ce matin, mais qui auraient besoin d'être restaurés et guéris. J'inviterais simplement à fermer les yeux et à prendre un temps devant le Seigneur, peut-être dans le silence, et de se poser cette question chacun pour soi-même. Est-ce que vraiment j'arrive à dire encore à qu'il est bon, que c'est agréable d'être avec mes frères et sœurs en Christ, de demeurer avec eux? Ou est-ce que j'ai encore du mal à le dire? Est-ce que j'ai encore du mal à le vivre? Seigneur Jésus, nous sommes là devant toi. Tu es le Dieu de lumière et nous ne voulons pas faire semblant. Nous ne voulons rien cacher devant toi. Tu connais nos cœurs, nos pensées, ce que nous vivons, ce que nous traversons. Et par ta parole, Seigneur, tu veux peut-être pointer du doigt certaines choses ce matin dans nos vies. Seigneur, j'aimerais te prier en particulier pour celles et ceux qui ont été blessés dans les relations fraternelles et pour qui il y a encore quelque chose de vif, qui n'a pas été guéri, qui n'a pas été soigné. Seigneur, je te prie que tu es celui qui guérit les cœurs brisés, tu es celui qui restaure, Seigneur. Toi, Jésus-Christ, comme nous l'avons rappelé dimanche dernier. Alors, Seigneur, je te prie que par ton Saint-Esprit, tu fasses cette œuvre de restauration, Seigneur, dans le cœur et la vie. de chacun d'entre nous, de ceux qui entendent ce message et qui ont besoin de restauration, de guérison par rapport à la vie fraternelle, la communion fraternelle. Fais ton œuvre, Seigneur, de restauration ce matin. Seigneur, je te prie que tu nous aides toujours plus en tant qu'Église à chacun d'entre nous à réaliser la vérité de ta parole sur ce que tu dis, que oui, tu as quelque chose de bon, d'agréable prévu pour nous, Seigneur, dans les relations fraternelles. Et malgré parfois nos mauvaises expériences, Seigneur, nous voulons croire à cette parole qui est véritable, qui vient de toi, qui est la vérité. Et croire que tu as encore des bénédictions en réserve, Seigneur, quand nous faisons ce choix de nous rassembler pour t'adorer ensemble, pour te louer, pour prier, pour échanger, se mettre ensemble à l'écoute de ta parole. Oui, Seigneur, nous voulons croire que c'est là qui est la bénédiction et la vie pour toujours. Merci, Seigneur, pour ces promesses. Merci parce que ta parole est vérité. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Et je vais demander au groupe de louanges de venir. On va prendre ce chant pour répondre aussi ensemble à ce que dit la parole. Et avant cela, je vous proposerai peut-être de redire encore une fois le psaume 133 ensemble. Après qu'on ait prié, de le dire. Et peut-être qu'il y a encore des choses qui tiraillent dans nos cœurs. Et on veut me proclamer en disant, oui Seigneur, j'ai encore du mal à le vivre, mais je veux le croire parce que c'est ta parole, que c'est bon, que c'est agréable. Vous êtes d'accord? Je propose peut-être qu'on se lève ensemble, si vous êtes d'accord, et qu'on lise ce texte ensemble, texte de la parole de Dieu. Ah, que c'est bon, que c'est agréable lorsque des frères demeurent vraiment ensemble. C'est comme la bonne huile sur la tête d'Aaron qui descend sur la barbe d'Aaron qui descend jusqu'au bord de son vêtement. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Oui, c'est là que le Seigneur ordonne la bénédiction, la vie pour toujours. Amen.
Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes
Oh, C'est très drôle, je vois qu'on a chanté.